Merci d'écouter RFI, les 8h30 à Paris, 2h de moins en temps universel. Et tout de suite, c'est le journal de Nemo en piste à la une. Nemo, la situation dramatique que vivent les habitants de Djibo dans le nord du Burkina Faso.
Sous blocus djihadiste depuis 3 ans et victime d'une nouvelle attaque la semaine dernière. Ils sont coupés du monde, contraints parfois de se nourrir de feuilles d'arbres bouillies. C'est une véritable catastrophe humanitaire qui est décrite sur place. Un nouveau médiateur pour le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Le président togolais Fornia Singbé remplace son homologue angolais, João Lourenço. Une nomination par l'Union africaine qui ne fait pas l'unanimité à Lomé. La réaction de Brice Clotaire-Oligui-Nguema dans ce journal élu est très largement président du Gabon. Plus de 90% des voix exprimées selon les résultats provisoires. Il salue la maturité de son peuple et appelle à la sagesse de tous les citoyens. Et puis le dossier de ce journal à la découverte du Spacebus. Une soixantaine de scientifiques sillonnent le Sénégal pour faire découvrir de nouveaux univers, notamment aux plus jeunes.
Au Burkina Faso, la ville de Djibo, une nouvelle fois attaquée la semaine dernière.
Un assaut jeudi revendiqué par le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Sur place, des tirs nourris ont été entendus une bonne partie de la matinée. Djibo dans le nord du pays, ville sous blocus djihadiste depuis désormais 3 ans. Une situation invivable et aux conséquences parfois mortelles, Sidi Yansane.
Depuis le début du blocus en février 2022, Djibo illustre les défis sécuritaires auxquels est confronté le Burkina Faso depuis une décennie. Régulièrement prise d'assaut par les terroristes, la ville du Nord, réputée pour son marché à bétail, sombre dans la catastrophe humanitaire. Coupée du reste du pays, ses habitants peinent à répondre à leurs besoins les plus basiques et sont parfois obligés de se nourrir de feuilles d'arbres bouillies ou d'abattre leur bétail pourtant précieux. Dès la première année du blocus, au moins 8 enfants sont morts de faim, poussant une centaine de femme a manifesté, calebasse et bidon vide dans les mains, pour montrer aux autorités que les estomacs se creusent. Les ravitaillements aériens de l'armée burkinabé restent insuffisants et les convois routiers essuient des attaques, comme celle de Gaskindé en septembre 2022, qui a eu pour résultat la chute du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, président de transition avant le capitaine Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, Djibo a tout d'une cité fantôme. Une source sécuritaire affirme anonymement que les habitants sont cantonnés dans les 2 quartiers les plus proches du camp militaire, protégés par des tranchées. L'omerta est absolue car ceux qui parlent subissent les représailles des djihadistes ou les interrogatoires de l'armée.
Sidi Yansane, en République démocratique du Congo, réaction ce matin sur nos antennes de l'armée, accusée par le groupe AFC M23 d'être à l'origine des heurts qu'a connu Goma, la grande ville de l'est du pays, dans la nuit de vendredi à samedi et ayant fait 52 morts selon les autorités nationales. L'armée parle d'une accusation taillée de toutes pièces pour manipuler l'opinion et tenter de faire capoter les initiatives de paix en cours.
Justement, l'est de la RDC qui bénéficie d'un nouveau médiateur.
C'est maintenant officiel. Fornia Singbé prend le relais du président angolais João Lourenço. Le chef de l'État togolais a été désigné par l'Union africaine, Florence Maurice.
Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, remercie l'Union africaine pour la confiance exprimée à l'égard du président togolais. Il assure que ce dernier contribuera activement, je cite, à la recherche d'une paix durable dans la région des Grands Lacs. La tâche s'annonce difficile. Son prédécesseur, João Lourenço, a essuyé plusieurs revers diplomatiques. Depuis fin 2021, une demi-douzaine de trêves et cessez-le-feu ont été décrétés dans l'est de la RDC, tous rapidement brisés. La première étape pour le président togolais sera déjà de fusionner et d'harmoniser les 2 processus de médiation existants, ceux de Luanda et de Nairobi, pour éviter une multiplication des canaux de discussion. D'autant que depuis plusieurs semaines, le Qatar conduit lui aussi, en parallèle et en toute discrétion, un processus de facilitation à Doha. C'est là que fin mars, à la surprise générale et après plusieurs tentatives avortées de la part de l'Union africaine, les présidents rwandais et congolais ont finalement accepté de se rencontrer.
Une nomination qui toutefois suscite une certaine controverse au Togo même, où des associations, une quinzaine, dénoncent le manque de légitimité de Fornia Singbé, un scepticisme loin d'être dissimulé ce matin par Louis-Rodolphe Atiogbe du mouvement Novation Internationale.
Nous avions quand même été choqués par sa désignation. Pourquoi ? Quelqu'un qui viole tous les droits des citoyens dans son pays, on le choisit comme médiateur dans une telle crise, c'est un éloge au mépris de la démocratie, du respect des droits de l'homme. Le président Fornia Singbé est au pouvoir depuis 2 décennies. Un tel médiateur devrait être respectueux des tests et dispositions nationales, sous-régionales et régionales. Une personne qui ne restreint pas les espaces de liberté dans son pays. Tel n'est malheureusement pas le cas du président Faure. Il ne dispose donc d'aucune légitimité qui n'incarne les valeurs de justice, d'exemplarité nécessaires à un médiateur crédible dans une crise de cette ampleur.
Louis-Rodolphe Atiogbe du mouvement Innovation Internationale, il était joint par Christina Okello.
Au Gabon, victoire haut la main de Brice Clotaire Oligui Nguema à la présidentielle.
Écrasante même cette victoire, 90,35% des voix en sa faveur selon les résultats provisoires annoncés par le ministère de l'Intérieur. Le chef de la transition prolonge ainsi son séjour au palais du bord de mer de Libreville qu'il occupe depuis son coup d'état en août 2023. Brice Clotaire Oligui Nguema qui a assisté à l'annonce des résultats à son QG de campagne. En présence de ses plus fidèles partisans, il n'a ensuite pas tardé à réagir. Je vous propose de l'écouter.
Je tiens à saluer particulièrement la maturité du peuple gabonais. J'en appelle à la sagesse des uns, des autres et de tous les bâtisseurs et de tous ceux qui m'ont accordé leur suffrage d'attendre la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle pour célébrer la victoire du peuple gabonais. Mes chers compatriotes, notre pays est en chantier. Je vous invite à reprendre vos activités professionnelles dans cette 5e République que nous appelons de tous nos voeux.
La réaction de Brice Clotaire Oligui Nguema recueillie par Yves-Laurent Goma. Et vous, vos réactions à l'élection présidentielle gabonaise? Juan Gomez les attend dans Appel sur l'actualité. Rendez-vous à 9h10, heure de Libreville. José Plia est mort, chargé de mission aux arts et à la culture de Patrice Talon, le président béninois. Il avait fait appel à lui pour exécuter son ambitieux programme de tourisme mémoriel. José Plia qui avait d'abord dirigé l'Agence nationale de la promotion des patrimoines et du développement avant de devenir chargé de mission. Il est décédé à l'âge de 58 ans.
Oubliez le boulevard Valéry Giscard d'Estaing à Abidjan, appelez-le désormais boulevard Félix Houphouët-Boigny.
C'est le nouveau nom qui apparaîtra sur l'une des plus grandes artères de la capitale économique. D'autres voies changent également de nom. Ultime étape et la plus symbolique sûrement du projet d'adressage du district d'Abidjan démarré il y a 8 ans. Benoît Almeras a suivi les travaux donc sur le boulevard Houphouët-Boigny.
Casque blanc sur la tête et gilet jaune sur le dos, une dizaine d'ouvriers fixent les nouveaux panneaux sur les trottoirs.
Le panneau indique que c'est le boulevard Félix Houphouët-Boigny.
Près de 400 plaques orange vif vont être posées sur les 8 km du boulevard. Objectif, afficher son nouveau nom adopté depuis 2023. Les passants saluent ce changement visible.
Ce boulevard est un boulevard d'histoire. Il traverse pratiquement tout Abidjan. C'est une façon de rendre hommage au tout premier président. Et aussi, ça africanise un peu aussi quelque part les noms.
Ça fait plus ivoirien parce que là, on aura le nom de nos dirigeants ici.
Au total, un peu plus de 14 000 voies, rebaptisées ou non, vont avoir des panneaux flambant neufs. Orange pour les boulevards, vert pour les avenues, bleu pour les rues. Reste que les anciens noms sont encore très utilisés. D'ailleurs, sur les GPS comme Google Maps, le boulevard Félix Houphouët-Boigny s'appelle toujours VGE. Adolphe Nguessan gère le projet d'adressage du district d'Abidjan.
Dans cette plateforme-là aujourd'hui, c'est deux noms qui habitent. Avec la pose des plaques, je pense que l'appropriation devrait s'améliorer jusqu'à une certaine période où les anciens noms vont totalement disparaître.
Et des projets d'adressage sont également en cours à Yamoussoukro, Daloa et Korogo. Benoît Almeras, Abidjan, RFI.
Tenter de faire revenir les Sénégalais vers les sciences, voire susciter des vocations.
C'est là l'objectif de l'initiative Spacebus, du nom d'une caravane qui sillonne les routes du pays pour promouvoir et vulgariser certaines matières scientifiques. À bord du Spacebus, on retrouve une soixantaine de passionnés de technologie ou encore d'astronomie. Et les habitants de 20 villes vont pouvoir profiter de son passage. Léa Lisa Vesteroff a suivi l'étape de Thiès à une centaine de kilomètres au sud de Dakar. Reportage.
Alors regardez, si on avait envie de faire bouillir.
Devant
de
une audience captivée, Dembo Biakité fait bouillir de l'eau sans feu ni électricité.
Mais je suis un dealer de sciences. C'est de l'eau qui boue.
L'objectif pour ce professeur de physique à la retraite, montrer que les sciences, c'est pas compliqué.
Et on veut que la population, les élèves, s'intéressent un peu plus à la science, qu'ils viennent s'étonner devant les faits scientifiques et qu'ils recherchent les explications.
Car le désamour est profond. 16% à peine des élèves sénégalais se tournent vers des filières scientifiques. C'est 2,5 fois de moins qu'il y a 40 ans. Pour Amadou Mustapha Dem, dont la start-up veut démocratiser l'informatique, il faut inverser cette tendance.
Il ne faut pas se voiler la face, l'Afrique. Dans le cadre numérique, l'Afrique est vraiment en retard. Donc nous, notre mission, c'est d'essayer d'enlever les mystiques qui sont autour de la science. Parce que les élèves, ils ne choisissent pas les filières scientifiques, ils se disent que c'est difficile. Alors que lorsque tu t'y intéresses, ça va venir forcément.
Observation des planètes, pilotage de drones, jeux scientifiques, le planétologue David Baratou fait partie des animateurs de ce Spacebus.
On montre aussi des métiers qui existent dans le secteur du spatial et comprendre que son rêve, il est peut-être réalisable et que peut-être il fera des études au Sénégal, peut-être ailleurs.
Louga, Podor, Ziguinchor au Kédougou, jusqu'au 13 mai, le Spacebus fera rêver les jeunes dans 20 villes du Sénégal. Léa-Lisa Vesterhoff, de retour de Thiès, RFI.
Et à l'origine de ce projet, l'astronome Maram Kairé, il veut rappeler que ces domaines restent accessibles à toutes les nations, mais qu'il faut maintenant encore plus de scientifiques sur le continent africain.
On a fait comprendre à l'Afrique que le spatial, ça coûtait cher, que ce n'était pas accessible. Aujourd'hui, avec l'avènement du New Space, il est possible de faire des petits satellites et d'arriver donc à recueillir des données qui peuvent aider dans les secteurs prioritaires, l'agriculture, la santé, l'élevage, la protection de l'environnement, la sécurité de nos frontières, les plateformes de pétrole, ainsi de suite, et les ressources maritimes. Donc l'Afrique a pris cette prise de conscience. On est à 22 agences spatiales qui sont créées sur le continent. Une quarantaine de satellites ont été lancés en l'espace de 20 ans. Et si aujourd'hui le spatial est un levier de développement durable, il faut s'assurer que les investissements ne seront pas perdus dans 20 ans, tout simplement parce que nous n'avons pas la masse critique de scientifiques pour faire le travail. Donc c'est une chose d'investir, c'est une autre chose de préparer la jeunesse à porter le flambeau pour le développement scientifique du continent. Et le Spacebus contribue donc à créer cette prise de conscience.
Maram Kairé, directeur de l'agence sénégalaise d'études spatiales, au micro de Léa-Lisa Vesterhoff, qui signe le dossier de ce journal depuis Dakar. Le Spacebus, qui depuis sa première tournée au Sénégal en 2015, s'est exporté en France, au Maroc, au Togo, au Bénin ou encore en Côte d'Ivoire.
Du sport pour refermer cette édition et les galères du gardien des Lions indomptables.
André Onana qui traverse une période difficile. Le gardien camerounais de Manchester United à la peine la semaine dernière lors du quart de finale d'Europa League contre l'Olympique Lyonnais, pris pour cible même par certains supporters. Résultat, il n'a même pas été convoqué par son entraîneur Ruben Amorim pour le déplacement de son équipe ce dimanche sur la pelouse de Newcastle, signe d'un réel malaise entre le portier et sa formation, Baptiste Leduc.
Si André Onana n'avait jamais expérimenté l'effet papillon, c'est maintenant chose faite. Sa provocation avant le quart de finale de Ligue Europa contre l'Olympique Lyonnais aurait pu rester sans conséquence, mais ses boulettes sur les buts lyonnais lui ont attiré des critiques. Après la rencontre, l'entraîneur de Manchester United, Ruben Amorim, ne semblait pourtant pas vouloir lâcher André Onana.
Cela peut arriver à n'importe quel joueur. Rien de ce que je dirais ne pourra l'aider. André garde toute ma confiance.
Sauf que le coach portugais a remis une pièce dans la machine ce week-end, alors qu'Onana n'avait pas manqué une seule minute de championnat depuis son arrivée à Manchester en 2023. Voilà qu'il s'est retrouvé assigné à résidence un week-end de match. Alors c'était pour se reposer officiellement, donc ce n'est pas encore une mise au placard, mais de nombreux supporters se demandent si le portier camerounais a les qualités requises pour rester numéro 1. Certains ont même repris la thèse de Nemanja Matic, le milieu lyonnais qui avait estimé qu'Onana était le pire gardien de l'histoire récente de Manchester United. En attendant de savoir s'il va retrouver sa place rapidement, André Onana peut au moins compter sur le soutien du syndicat des joueurs camerounais qui dénonce dans un communiqué le harcèlement subi selon eux par le portier des Lions indomptables.
Baptiste Leduc du service des sports de RFI, et avec ou sans André Onana, c'est difficile pour Manchester United. Les Red Devils sont coulés à Newcastle, défaite 4 buts à 1. Hier, les Mancuniens sont 14e de Première Ligue.
Le sport, c'est aussi notre journal dédié et ce sera tout à l'heure avec Antoine Grenier à 9h42. Merci Nemo en Peace.